Bonsoir à tous, bienvenue dans Hors Piste. Hors Piste, l'émission qui commence là où l'actualité s'arrête. Hors Piste, c'est d'abord une rencontre. Rencontre avec Laurent Berger cette semaine. J'y suis, j'y reste. Celui qui dirige la CFDT depuis 2012 vient d'annoncer qu'il sera candidat à sa propre succession au mois de juin prochain. Laurent Berger, que l'on voit souvent sur le perron de l'Elysée ou celui de Matignon, que l'on entend à la radio, à la télé, parler mobilisation, réforme des retraites, négociations en tout genre. Mais qui est vraiment Laurent Berger ? Il a accepté de faire un peu de hors-piste avec nous ce soir.
Hors-piste. Thomas Soto sur France Inter.
Je dis stop. Je dis ce qu'il faut, c'est une vraie réforme fiscale.
S'engager, peser sur les réformes.
Ne pas attendre la recette miracle.
Garantir plus de droits pour les salariés.
Camarades, d'aucuns diront que le syndicalisme est à la société moderne ce que le mercurochrome est à la jambe de bois.
C'est quelqu'un qui est extrêmement clair, net et loyal. On a des points d'accord, on a des points de désaccord. Et Dieu sait qu'on a eu des points de désaccord, mais toujours à la loyale.
On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.
Je l'ai rarement vu s'énerver, Laurent Berger. En revanche, il peut être parfois très entêté. C'est-à-dire quand il a une idée dans la tête, c'est très difficile de la lui faire sortir.
C'est quelqu'un qui peut avoir un regard que j'ai pu percevoir parfois dans certains moments, que certains appelleraient l'âme de rasoir. Quand il a un mécontentement sur quelque chose, ça se perçoit très très vite.
C'est beaucoup d'émotions, voilà. Mais voilà, c'est pas plus que ça, mais c'est tout ça.
Notre secrétaire général, Laurent Berger.
Il était très timide. Il avait besoin d'être mis en confiance. Aussi, au niveau du langage, c'était pas facile non plus.
Le drame de la timidité, monsieur Renaud, voulez-vous que je vous le dise, c'est qu'il ronge les ailes de l'ambition. C'est bien vrai, ça.
Il a une expression à la fois équilibrée, respectueuse, même quand il pousse un coup de gueule. Et que c'est peut-être aussi ça qui fait qu'il se distingue aussi dans le paysage français aujourd'hui.
La CFDT a obtenu le retrait de l'âge pivot. Victoire. Victoire. Non, pas victoire. Victoire, c'est retrait. Qu'est-ce que fout la CFDT ? J'ai prévenu plusieurs de mes collègues que je rendais mon mandat. Je n'arrive plus ni à comprendre ce qui se passe en haut. Et surtout, c'est plus du tout ce pourquoi j'ai adhéré.
Monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or.
Bonjour et bienvenue à vous dans Hors Piste, Laurent Berger.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous retenez quand vous entendez les autres parler de vous comme ça ?
Bah, il y a une part d'émotion quand on entend ma femme, ma mère, François Chérec, Nicole Nota. Une part d'émotion parce que là, il y a de l'intime et puis il y a aussi de l'affection concernant les anciens responsables de la CFDT. Il y a sentiment de revivre un peu des moments forts, l'arrivée comme secrétaire général, mais aussi des moments de tension dans les discussions. Et puis ça, j'en retiens aussi une forme de dureté de la tâche, parce que on peut jamais faire l'unanimité, parce qu'il y a de la controverse.
Parce qu'il y a de la critique.
Parce qu'il y a de la critique, elle est légitime. Pour tous ceux qui exercent une responsabilité, c'est normal qu'il y ait de la critique.
Vous aimez ça, qu'on parle de vous ou pas ?
Non, pas tellement. Enfin, j'aime pas qu'on parle de moi. J'aime bien qu'on parle des travailleurs, de la CFDT, de ce qu'on essaye de faire. Mais oui, c'est pas l'exercice que je préfère. J'ai une forme de pudeur que chacun connaît et c'est pas un exercice facile.
Une forme de pudeur, une forme de timidité, disait votre maman, hein, Françoise Berger, qui a accepté de nous parler. Ça peut paraître paradoxal quand on occupe une fonction qui vous met en pleine lumière. Est-ce qu'on peut se permettre, Laurent Berger, d'être un grand timide quand on doit être une grande gueule ?
Mais je crois pas que tu dois être une grande gueule. Je dois être une voix qui porte les revendications de la CFDT, la voix des travailleurs, une ambition de justice sociale. Et j'ai une part de timidité, mais que je surmonte allègrement dans l'exercice de ma fonction, mais que je garde aussi pour moi dans des moments plus personnels. Mais oui, c'est vrai que je suis un timide de naissance, d'une certaine manière.
Moi, je vous ai interviewé souvent pour des interviews d'actualité. Et là, je vous ai vu arriver pour Hors Piste. c'est pas le même bonhomme, là. On sent que le fait de devoir vous faire parler de vous, de tracer votre parcours, là, ça vous intimide davantage.
Ouais, ça m'intimide. D'abord parce que moi, si on est syndicaliste, c'est pour parler des idées. Et puis parce que c'est pas simple. On a tous notre part de jardin secret. Moi, j'ai accepté parce que je trouve que cette émission, elle peut être intéressante. Mais c'est vrai que ça demande plus d'efforts que si vous me demandiez de parler des pouvoirs d'achat, des retraites, de l'écologie.
Mais c'est pas le sujet du jour. Il en reste quoi aujourd'hui de cette timidité, notamment quand vous vous retrouvez face à des ministres, face à des premiers ministres, face à des chefs d'État?
Rien en termes d'expression, mais beaucoup en termes de préparation. J'ai tendance à dire que je voyage pas à vide. Et donc je viens avec en ayant travaillé, en ayant étudié les dossiers, en ayant des notes, et même en interview, je sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai toujours des fiches devant moi, même si je ne les lis jamais en interview, mais c'est un peu comme mon doudou, mon anti-sèche qui me rassure, quoi.
Il existe un proverbe japonais qui dit: donner un grain d'audace au timide, il devient roi. Au fond, pour vous, Laurent Berger, est-ce que cette timidité a été une souffrance ou au contraire un moteur qui a entraîné un désir de revanche?
D'abord, au début, quand on est enfant et on est très replié sur soi-même, il y a une forme d'envie d'aller explorer ailleurs, mais un peu d'incapacité à le faire. Donc moi, j'ai été très accompagné par mes parents qui m'ont donné envie d'aller voir ailleurs. Et ensuite, le syndicalisme, il a ceci de particulier, c'est qu'on postule pas une responsabilité, on accepte les sollicitations qui nous sont faites. Et moi, j'ai toujours considéré que le collectif étant plus fort que tout, si on me faisait confiance, c'est qu'on me faisait confiance tel que j'étais. Donc avec ma pudeur, avec ma timidité, mais vous savez, ma femme, elle a coutume de dire que finalement je suis pas si timide que ça, mais que des fois ça m'arrange de faire croire encore que je suis timide.
Une petite posture parfois là-dessus.
des fois, non, je crois pas qu'il y a de posture. Je suis vraiment timide quand je connais pas les gens, mais c'est vrai que des fois, si ça peut me permettre que ce soit pas moi qui aille demander quelque chose quand on est perdu ou je ne sais quoi, voilà, ça aide. Mais ça, c'est le côté un peu malicieux. Mais
vous parliez de vos parents, vous dites souvent: je suis fier d'être un fils d'ouvrier, le fils de Robert, parti il y a un an, en septembre 2020. Robert Berger, toute une vie consacrée au chantier de Saint-Nazaire. Vous dites que c'était un mal aux mains. C'est quoi un mal aux mains?
Il nous traitait de mal aux mains.
Il vous traitait de mal aux mains?
Mes frères et sœurs et mon beau-frère, quand on bricolait, en fait, c'était un physique. Il avait été agriculteur dans la ferme de ses parents jusqu'à 25 ans et ensuite a été manutentionnaire, il a été échafaudeur et puis il a été soudeur. Et il faisait beaucoup de travaux physiques, le jardin, etc. Et quand on devait bricoler ensemble, ramener de la terre ou je ne sais quoi, il nous traitait de mal aux mains parce qu'il en faisait quatre fois plus que nous, quoi. Mais on tire, ouais, j'en tire une certaine fierté ouvrière, ouais, d'être né dans cette famille. Moi, je le dis souvent, je suis le fruit de l'amour parental, c'est-à-dire celui qui permet d'avancer dans la vie, quel qu'on soit. On est quatre, on est différents les uns des autres, et ils nous ont tous pas dit là où on devait aller, mais ils nous ont donné la possibilité de choisir notre chemin. Moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux quand on est parents, c'est de permettre ça, quoi.
Et votre engagement, c'est un engagement au nom du père. Lui était cédétiste, lui était syndicaliste.
Oui, ma mère aussi, d'ailleurs. C'est pas au nom du père, au sens où vous l'entendez. Non, c'est il y a une filiation, forcément, mais c'est pas la voie qu'ont suivi tous mes frères et sœurs, et c'est pas plus mal. Moi, c'est aussi beaucoup l'objet de rencontre, l'engagement syndical. Je me suis pas senti en devoir pour faire une filiation, de prendre. D'abord, c'était pas du tout la logique qui était celle de mes parents. Et puis, j'étais quand même très émancipé. J'étais un jeune très libre de faire ce que je voulais. Personne m'a contraint à quoi que ce soit.
Si on devait diffuser la bande originale de votre enfance, Laurent Berger, il faudrait forcément y inclure Ma Môme de Jean Ferrat.
Ma môme, elle joue pas les starlettes. Elle met pas des lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil.
Dans elle vous raconte quoi? Elle vous évoque quoi, cette chanson, Ma Môme de Jean Ferrat?
Un souvenir très précis, l'arrivée du tourne-disque dans notre famille, lorsque j'avais, je sais pas le situer, 8-9 ans, 10 ans peut-être, comme étant une vraie fête, avec un disque chacun, pour les 6 membres de la famille, mes parents et mes frères et sœurs. Je me rappelle plus quel était le mien, ça devait être une... mais je me rappelle que c'était le disque que ma mère écoutait. Et voilà, c'est moi, j'étais, oui, autour de beaucoup Jean Ferrat, pas simplement Lenny Escudero, Jacques Brel, beaucoup parce que c'était des chanteurs que ma mère aimait bien. Mon père était beaucoup accordéon. Et voilà, c'était ce moment-là où quelque chose arrivait. C'était une espèce de fête pour nous. On a du mal à s'imaginer aujourd'hui. Mmh. La musique est partout, on peut faire ce qu'on veut, etc. Là, il fallait un appareil et un disque. Et puis, ça cultivait une forme de culture. C'était un chanteur. Enfin, Jean Ferrat, pour moi, je veux dire, c'est une référence. Alors, ça peut paraître bizarre pour le leader de la CFDT. Hein, il avait été à la CGT, au Parti communiste.
Il était plus à gauche.
Oui, si on peut dire. Mais c'est d'abord un poète extraordinaire, un interprète fabuleux. Et c'est vrai que c'était la musique qui rythmait beaucoup notre enfance.
Laurent Berger, vous avez l'image d'un modéré. Ça, c'est ce que disent ceux qui vous aiment bien. Les autres disent plutôt Berger, bon, c'est un apparatchik, c'est Monsieur Mou, il est à la recherche du compromis permanent. Est-ce que le compromis ne contient pas intrinsèquement une forme de tiédeur?
Pas du tout. Et je ne suis pas un modéré.
Vous n'êtes pas un Mou?
Non. Pas du tout. Non, je crois que la radicalité aujourd'hui, c'est de porter des propositions très concrètes qui peuvent changer la donne sur la question de la justice sociale, de la fiscalité. On a entendu un son tout à l'heure. Mais la vraie radicalité, c'est aussi de montrer qu'il faut qu'on le fasse dans un cadre démocratique et à la recherche de vrais résultats et pas simplement de postures des uns et des autres. Et donc,
mais on a l'impression que vous n'aimez pas le conflit.
Si, je suis capable de le mener lorsqu'il est nécessaire. J'aime pas le conflit stérile. J'aime pas le jeu de posture. J'aime pas considérer que celui qui n'est pas d'accord avec moi est juste un connard avec qui il n'y a pas à discuter. J'ai horreur de ça, je l'avoue. Moi, je suis profondément démocrate et je pense que la démocratie, c'est la reconnaissance que nos sociétés sont traversées par des intérêts contradictoires. Moi, je suis un farouche défenseur des travailleurs. Sous ma responsabilité, la CFDT est devenue la première organisation syndicale. J'en suis très fier. C'est pas pour rien si les travailleurs ont considéré que elle devait être la première organisation syndicale. Donc, non, moi, je refuse cette idée que ce serait celui qui gagnerait le plus fort, qui serait le plus outrancier, qui serait le moins modéré et donc le plus combatif. Je suis très combatif. Je crois que.
Et qu'est-ce qui vous fait sortir de mes gonds?
On a eu un son tout à l'heure de l'ancien président de la République qui l'a un peu dit. Ce qui me fait sortir de mes gonds, c'est deux choses potentiellement. La première, c'est quand on est dans les postures et on est dans les caricatures. Moi, je crois à la complexité. Enfin, je crois que les choses sont complexes et je crois à l'intelligence individuelle et collective pour trouver des réponses. Et donc, j'ai horreur des caricatures, des facilités. J'aime que ce soit argumenté. Et la deuxième chose, c'est tout ce qui touche à mes valeurs, ce qui me fait sortir de mes gonds, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'exclusion de l'autre, les discriminations, le racisme. Donc, ce qui me fait sortir de mes gonds, c'est ce qui m'indigne, c'est-à-dire le fait que on considère que on n'aurait pas une forme d'égalité entre nous. Et donc, je me suis jamais senti mal de côtoyer des gens qui avaient fait plus d'études que moi, qui étaient plus fortunés, etc. Parce que je considère pas ça plus important que de discuter avec la femme qui fait qui s'occupe de l'entretien des couloirs à la CFDT le soir et d'échanger quelques mots avec elle. Je trouve pas ça plus important l'un que l'autre. Et donc, ça me fait sortir de mes gonds.
On entendait aussi dans le portrait qu'on vous a consacré en début d'émission un extrait des manifestations anti-loi de Vaquer. On est en 1986, vous avez participé à ces manifestations. Vous aimez ça, les manifs, ou ça vous saoule?
Non, je vais parler au passé. J'aimais beaucoup ça. J'en ai passé des manifs et des manifs à Saint-Nazaire avec mes parents. J'ai passé des dimanches à occuper le pont de Saint-Nazaire pour sa gratuité, à faire des opérations ville morte, à faire des manifestations entre la gare et l'hôtel de ville, puis ensuite à Nantes, puis ensuite à Paris. J'aime ça quand c'est joyeux, quand c'est festif, et quand c'est pas évidemment violent, et quand ça porte une vraie cause. Et donc je suis pas du tout anti-manif, je crois même être un de ceux dans le paysage public qui en a fait sans doute le plus, mais à condition que ça serve à quelque chose. Et puis malheureusement...
Donc aujourd'hui ça sert moins à quelque chose?
Si, ça peut servir à quelque chose, mais c'est pas de celle dont on parle le plus. Vous savez, j'ai une des dernières manifs auxquelles j'ai assisté, c'était avec les aides à domicile. Ces femmes, payées autour de 800-900 euros, qui réclamaient une augmentation de salaire devant le ministère de la Santé. On était 1500, 2000 à l'appel de la CFDT. C'était extrêmement riche en termes de discussion. Eh bien, on a obtenu que l'avenant 43, qui avait été négocié, s'applique. Et au 1er octobre, ces femmes, elles vont avoir 15% d'augmentation de salaire. Mmh. Là, ça vaut le coup d'aller manifester. Ça vaut le coup d'aller manifester lorsqu'on veut dire sur une cause, même si on n'y peut pas grand-chose. Il y a eu une manifestation, un rassemblement dimanche dernier pour dire notre horreur de ce qui se passe en Afghanistan et notre solidarité avec le peuple afghan. Il faut le faire. Il faut le faire lorsqu'on veut se battre contre une réforme, quelle qu'elle soit. Donc il n'y a pas de problème de la manifestation en tant que telle, mais le faire en permanence et croire que c'est ça l'alpha et l'oméga du syndicalisme, je pense que c'est une bêtise.
À propos de syndicalisme, il y a quelqu'un qui a une définition assez simple de ce qu'est le syndicalisme. C'est Coluche, extrait de son sketch Le Délégué syndical.
Rappelez-vous l'essentiel. Camarades, le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Le syndicalisme, c'est le contraire.
C'est drôle, mais c'est cruel, Laurent Berger.
Ouais, mais c'est drôle.
Mais c'est cruel.
Ouais, c'est cruel, mais c'est pas forcément vrai.
Non.
Mais on lui demandait pas d'être dans la vérité, on lui demandait d'être dans l'humour. Et moi, j'aime bien. Vous savez, de temps en temps, on est caricaturé, on est repris par sur les antennes. Derrière, il y a un humoriste qui vous dresse un portrait, etc. Moi, j'ai toujours pris ça avec de la distance. Et puis, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est oui, le syndicalisme, il n'est pas parfait. D'ailleurs, il n'y a aucune de nos aventures humaines qui finalement n'est parfaite. Et donc. Moi, j'ai déjà dit que le syndicalisme était mortel, qu'il fallait se réinventer. On essaie de le faire. Ça veut dire d'être plus utile aux salariés, plus proche d'eux.
Le syndicalisme mortel, est-ce que c'est pas le sens de notre histoire contemporaine? Au fond, après la religion dans la place s'est érodée dans nos sociétés, après les grandes idéologies qui sont effondrées, après les partis politiques qu'on voit en train de s'effriter, est-ce que finalement, c'est pas, oui, naturellement autour du syndicalisme de disparaître?
Non, je crois pas, parce que on aura toujours besoin de porte-voix, de collectifs pour défendre les plus fragiles d'une certaine manière, les plus exposés, et en tout cas ceux qui sont mis sous une forme de domination. Enfin, en tout cas, vous savez, le contrat de travail, c'est quand même un lien de subordination. Et qui est pas égal. Enfin, c'est pas un rapport égal, c'est pas un contrat égal. Le salarié, il a des obligations qu'il doit suivre. Et ben dans ce cadre-là, on a besoin de réinstaurer le rapport, d'instaurer un rapport de force au bon sens du terme pour que ces droits soient pas bafoués. On le voit aujourd'hui. Regardez, on voit avec les plateformes numériques. Il y a pas de contre-pouvoir. Eh bien, on a des travailleurs, des livreurs à vélo, des chauffeurs Uber qui sont exploités. Parce que, justement, il n'y a pas cette capacité de représentation collective. Est-ce que ça veut dire que ce sera la même forme dans 50 ans du syndicalisme qu'aujourd'hui? La réponse est certainement non.
Est-ce que la négociation a encore un sens dans une société qui se radicalise, qui semble ne plus chercher à discuter, mais à se disputer en permanence?
Oui, mais je pense que ce n'est pas la société. Je pense que c'est beaucoup les acteurs, parfois les acteurs médiatiques, qui montent en épingle ce que sont les oppositions. Et qu'il y a, en tout cas, deux réalités. Celle-ci, alors avec un brouhaha national et insupportable, où on a le sentiment qu'il faudrait se battre en permanence, que tout est simple, chacun a sa solution, et c'est juste une confrontation des solutions de chacun. Et puis, il y a cette société qui est apaisée, qui cherche un peu d'apaisement, qui comprend que, de temps en temps, il faut rentrer dans le compromis.
Elle est majoritaire aujourd'hui, selon vous? C'est une majorité silencieuse, la société apaisée?
Je crois que c'est encore une majorité silencieuse. Je pense que, mais par contre, c'est une majorité silencieuse qui est très inquiète du bruit des autres et très inquiète de cette volonté de choisir encore en toutes circonstances, sans jamais pouvoir être dans la nuance. Et une vie, c'est quoi? Une vie personnelle, c'est de la nuance. On fait pas toujours exactement ce qu'on aimerait qu'on fasse. Et puis, c'est aussi du compromis. On en fait beaucoup dans sa vie personnelle, dans sa vie de tous les jours, avec ses collègues, avec ses amis. On en fait beaucoup de compromis. Et donc, moi, je vais vous dire, j'ai la trouille de la recherche de l'absolu. C'est-à-dire, je crois savoir tout ce qu'il faut sur tous les sujets. Non, j'ai besoin des autres. Moi, j'ai toujours eu besoin des autres pour progresser, pour réfléchir.
Est-ce que vous êtes un homme en colère, vous, Laurent Berger?
Des fois.
Vous parliez de votre capacité d'indignation tout à l'heure. On se souvient de Stéphane Hessel, indignez-vous. Aujourd'hui, on a l'impression que la colère a pris le dessus sur l'indignation.
Non, mais, oui, elle a pris la colère aujourd'hui a pris le dessus sur l'indignation. Moi, je suis parfois en colère parce qu'il y a des choses qui me mettent en colère, mais je suis plus indigné. Et vous savez, on m'a beaucoup reproché de pas faire mon boulot de syndicaliste quand je parlais de pauvreté. Parce que c'est pas forcément des travailleurs ceux qui subissent la pauvreté, même s'il y en a malheureusement aussi. On m'a beaucoup fait le procès de dire ben, vous occupez pas de syndicalisme, vous parlez aussi de choses plus générales. Ben, tout simplement parce que ça prend corps dans une indignation d'une société qui considère que quand on est exclu, ben on essaie de vous filer un coup de main, mais de toute façon vous êtes exclu, vous êtes à part. Ben ça fait partie d'une vraie indignation.
Mais vous êtes où, vous vous situez où par rapport à cette société d'indignés? Vous êtes un parmi les indignés, où on vous regarde comme un des meneurs, un des de cette caste qui ne comprend plus, je sais pas, est-ce que vous avez l'impression de parler à ce qu'on pourrait appeler au sens large la France des gilets jaunes, ou est-ce qu'il vous arrive de vous dire que vous aussi vous avez été, ou vous êtes comme les politiques et les journalistes ont pu l'être, à côté de la plaque?
Ben, on peut l'être à côté de la plaque et on peut être considéré comme là-haut, comme on dit beaucoup aujourd'hui dans la société, c'est les gens là-haut. Mais moi, vous savez, j'ai une pratique depuis que je suis secrétaire général que j'avais avant, c'est que toutes les semaines, je vais dans une équipe syndicale, j'ai rencontré des militants et je débat avec eux, sans caméra, sans médias, pour comprendre ce qui se passe. Et vous savez, une de, je crois, mes forces aujourd'hui à la CFDT, c'est que les militants me sentent l'un d'eux. Parce que je suis l'un d'eux. J'ai une place particulière, je suis aussi un porte-voix, un leader et une obligation de porte-parole, mais je suis l'un d'eux. Donc, vous savez, j'ai mon histoire pour moi, je sais d'où je viens, je sais ce que je ferai après, au sens, je sais ce que je ferai pas surtout.
Qu'est-ce que vous ne ferez pas?
Ben, je ne ferai pas, j'aurais fait mon passage dans le monde syndical, j'aurais assumé mes responsabilités, et ensuite, ben, j'essaierai de faire comme tout le monde, de travailler, de continuer à être.
Il n'y aura plus de vie publique pour vous après?
Ça dépend ce qu'on appelle la vie publique. Si c'est pour s'engager sur la question de la lutte contre la pauvreté, de l'aide aux migrants ou je ne sais quoi, il y aura toujours une implication et on me demandera peut-être sur des sujets de dire ce que je pense. Mais il n'y aura plus, il n'y aura pas d'implication politique ou autre ou syndicale. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut laisser la place et c'est à d'autres de parler.
On va faire une première pause musicale. Alors on n'a pas votre tourne-disque, celui de votre enfance, mais on a quand même un titre que vous avez choisi d'écouter qui s'appelle La Déclaration. Titre interprété par Debout le Zinc.
C'est un peu une déclaration que je te fais, car il est temps, je crois, da-da-da. Quand certains rêvent de nation, de football ou de vrai combat, da-da. Moi, c'est vers toi que je tends les bras quand ça ne va pas. Ma cervelle et mes sentiments, je te les donne. Ils sont pour toi, le reste on en reparlera. Le reste on en reparlera. Le reste on en reparlera. Pour vivre avec toi, yada. Tu es mon chez moi. Et mon second choix, la 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 la, mon rêve absolu qui ne tarit pas. Je te dois mes premiers frissons et mes premiers coups sur les doigts. Mais pour un mot, une chanson, j'aurais donné n'importe quoi. Malgré tous mes démons, les menottes que j'ai au bras. Si je te quitte pour de bon le lendemain, je cours vers toi, le reste on en reparlera. Le reste on en reparlera. Le reste on en reparlera. Pour vivre avec toi, yada. Tu es mon chez moi, la la. Mon premier et mon second choix, la 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 la. Mon rêve absolu qui ne tarit pas.
La déclaration signée Debout sur le Zinc. À qui vous la faites, cette déclaration, Laurent Berger?
Bah, vous l'avez compris, c'est une déclaration d'amour.
On a un petit peu l'impression.
C'est bien, déjà.
Mais je vous laisse y aller tout seul.
Et je la fais à ma femme.
Mireille,
avec qui, je vis aujourd'hui au milieu de nos 6 enfants. Même s'il y en a qui sont pas à la maison, parce qu'ils sont grands. Mais j'ai la chance de vivre avec la femme que j'aime. Une vraie histoire d'amour, une vraie passion, et puis le vivre aussi au sein d'une famille recomposée, ce qui est une vraie aventure humaine.
Ouais.
J'ai 4 enfants dont je suis ultra fier, et j'ai 2 belles filles, qu'on appelle ça comme ça, dont je suis aussi ultra fier. Et ça, il y a une chanson de Vianney qui parle de, qui s'appelle Beau Papa, qui est très jolie, et je m'y reconnais beaucoup. C'est une vraie aventure humaine.
Il y a de la place pour l'affect quand on est un leader syndical.
Il y a de la place pour l'affect, ouais, quand on est un homme, non?
Je parle pas dans la vie personnelle forcément.
Ah, dans la vie syndicale, il y en a. parce qu'on a des vrais camarades, des vrais amis, des gens qu'on découvre dans des collègues et à toutes les places hein, d'ailleurs. Moi, j'ai noué de vraies amitiés avec des collègues. Et il y a de la place pour la FEC. Il y en avait beaucoup.
Y compris dans d'autres syndicats ou pas? Parce que quand on vous voit avec Philippe Martinez de la CGT, on a l'impression que vous vous aimez bien.
Ouais.
Mais bah, que presque, faut pas trop le dire parce que ça pourrait fâcher vos bases respectives.
Moi, je peux le dire. Moi, je le respecte et je l'aime bien. Ouais. Bon, ça nous arrive de nous engueuler. Vous l'imaginez bien. Mais on a immensément de respect. Vous avez pu remarquer qu'on ne dit jamais de mal de l'un de l'autre dans les médias, mais c'est parce qu'on n'a pas à en dire. On n'est pas d'accord sur tout. Mais après tout, c'est quand même assez normal dans la société.
Il y en a un avec qui ça passe visiblement pas, c'est Emmanuel Macron. Je vais vous lire ce qu'écrivait le Figaro au mois de juillet dernier. C'est l'histoire d'un rendez-vous manqué, d'une rencontre qui ne s'est pas faite entre un président jeune, moderne, réformateur, et le patron du premier syndicat de France, lui aussi jeune, moderne, réformiste. Leur inimitié pèse sur la conduite des affaires. Qu'est-ce qui cloche entre Emmanuel Macron et Laurent Berger?
Mais humainement, rien, ou on s'en fout en tout cas. C'est pas le sujet. Moi, je suis pas là pour être proche. Encore une fois, j'ai une vie
personnelle. Vous venez de me dire qu'il y avait de la place pour l'affect quand on était leader syndical. Donc, quand il y a un peu d'affect, c'est peut-être plus facile aussi.
Oui, mais du coup, il y a sans doute qu'on a des histoires très différentes et tout. Mais je crois qu'on a une vraie conception différente de la société. Je vais vous prendre un exemple. Je ne crois pas qu'il suffit de mener des dispositifs et de dire aux gens, si c'est sans vous, et puis vous allez vous en sortir, etc. Moi, je crois qu'il faut un accompagnement spécifique pour les personnes qui, dans notre société, sont plus fragiles, ont plus besoin d'accompagnement. Et de soutien.
Vous avez le sentiment Emmanuel qu'il Macron ne vous respecte
que...
pas?
Non, j'irai pas là-dessus. Je pense qu'il n'a pas saisi que beaucoup de choix devaient être évidemment faits par ceux qui sont gouvernent et qui ont reçu le suffrage universel pour le faire, mais que ça pouvait se faire dans une forme de co-construction. Il y a eu des épisodes loupés, et puis il y a eu des épisodes qui ont fonctionné. Enfin, il y a des moments où on se parle. Par exemple, je suis le président de la Confédération européenne des syndicats. On travaille sur la préparation de la présidence française à l'Union européenne. Ben là, il y a du dialogue, en tout cas avec ses équipes. Donc, vous savez, moi, je suis pas dans les relations interpersonnelles. Et encore une fois, je vous le dis. J'ai aucune relation à l'extérieur, dans ma vie personnelle, avec des gens que je côtoie parmi mes interlocuteurs. Ma vie, c'est autre chose.
Vous n'irez jamais boire une bière avec un Premier ministre, avec un chef de l'État?
Peut-être un jour, s'il n'est plus en fonction et qu'on a envie de se rappeler les vieux souvenirs. Et ce ne sera pas un problème non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut de place à l'affect. Moi, j'ai un peu été énervé, pour vous dire les choses franchement, que sans arrêt, on me ramène en disant « Oui, mais vous laissez de là, ils s'aiment pas, et puis peut-être Berger il est vexé parce que Macron l'a pas invité. » Enfin, c'est ridicule. Moi, je suis le patron de la plus grande organisation syndicale française. Ce qui m'intéresse, c'est les résultats. Et franchement, j'ai suffisamment d'amis, j'ai pas le temps de les voir tous pour pas essayer de m'en créer
de nouveaux. C'est pas qu'une question d'amitié, c'est une question politique au sens large. Quand on reprend les arguments de l'article du Figaro que je vous lisais tout à l'heure, on se dit, ces deux-là, ils auraient dû être objectivement des alliés, or l'un est devenu le caillou dans la chaussure de l'autre et réciproquement.
Oui, mais vous savez, il y a deux mots qui sont importants, c'est réformiste ou réformateur dans l'article. Tout dépend ce qu'on met derrière le mot réforme. Moi, réformiste, ça me qualifie pas vraiment, en fait. Ce qui me qualifie, c'est engagé pour la justice sociale, pour une réelle transition écologique. Enfin, vous voyez ce que je veux. Moi, c'est pas pour rien qu'il y a eu des cassures. Quand j'ai fait une tribune avec d'autres sur la question migratoire, bah, il y a eu une cassure. Bah oui, on n'a pas la même conception. Bah, c'est comme ça. Et c'est pas normal.
Il paraît qu'il textote beaucoup. Vous textotez, avec le chef de l'État?
Non, pas beaucoup, non, non.
Un peu?
Bah, objectivement, non.
Pourtant, il paraît qu'il faut toujours parler à Laurent Berger. C'est pas moi qui le dis, c'est François Hollande, l'ancien chef de l'État qui a souvent eu affaire à vous et qui nous l'a confié pour Hors Piste.
Il faut toujours écouter, quand on est au sommet de l'État, Laurent Berger, parce qu'il, il ne trompe pas son interlocuteur, y compris le chef de l'État. Il lui dit les choses.
Aujourd'hui, vous pesez, Laurent Berger. Vous avez du pouvoir. Est-ce que vous aimez ça, au fond? Quand vous entendez un ancien président de la République comme ça, qui parle de vous...
Sur la balance, j'ai perdu du poids cet été. Je suis très content de ça.
Vous avez minci, c'est vrai.
Merci de l'avoir remarqué. Est-ce que j'aime ça? Enfin, franchement, j'aime que la CFDT pèse. Mais vous savez, j'ai une grande conscience de ce qu'est l'engagement syndical. Je suis persuadé que la CFDT pèse et que le jour où je ne serai plus secrétaire général, je ferai tout pour que, j'espère qu'elle continue de peser. Et que, à ce moment-là,
Vous battez quand même pour nous prouver que vous n'avez pas d'ego.
Si, j'ai un ego.
Ça en devient presque suspect.
Ouais, je veux bien le croire, mais en fait, c'est pas ça qui me fait kiffer. Alors, vous pouvez peut-être trouver ça bizarre, mais moi, mon moteur Il est le monteur des idées et le moteur de l'engagement collectif. Vous savez, l'endroit où je suis dans ma fonction le plus heureux, c'est avec des militantes et des militants. Et donc, le reste de la fonction existe. Et puis, j'entends ce qu'on dit. Et puis, moi, je suis très fier qu'on dise que Berger, il pèse parce que la CFDT pèse, ou la CFDT pèse parce que Berger pèse un peu. Tant mieux. Mais je ne suis pas dupe, vous savez. Les mêmes qui disent ça, une fois que j'aurai laissé mon mandat, ils s'en foutront totalement, ils auront sans doute raison.
Ça fera bientôt 10 ans que vous la dirigez, cette CFDT. Vous n'en avez jamais marre? Vous n'avez jamais envie de tout arrêter?
Non, tout arrêter, on ne peut pas. Marre, oui. Il y a des fois, j'en ai marre. Avant de partir en congé, là, j'étais bien content de partir en congé et qu'on se mette un peu avec Mireille et les enfants un peu à l'ombre, d'une certaine manière. Donc, non, je suis fatigué, j'en ai assez. Moi, j'en ai pas marre de diriger la CFDT. J'en ai un peu marre, des fois, de devoir être sur l'écume des choses dans le débat public alors qu'on fait un vrai travail de fond. Enfin, le syndicalisme, vous savez, il n'est jamais reconnu à sa juste valeur parce qu'en fait, on parle pas de ce qu'est vraiment le syndicalisme. Le syndicalisme, ce sont des milliers de femmes et d'hommes qui, dans les entreprises, toute étiquette syndicale confondue d'ailleurs, se battent pour leurs collègues, font avancer des idées, comprennent les enjeux économiques et donc font évoluer les entreprises. Et tout ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas et ils obtiennent des résultats, beaucoup de résultats. Donc, des fois, je ressens un peu de lassitude parce qu'il faut commenter la dernière actualité, le dernier truc. Et en fait, c'est pas vraiment ça, la vraie vie des gens.
Et puis, il y a ce schéma classique, si on peut dire. Il y a un texte qui arrive, les syndicats sont pas contents, il y a une mobilisation, il y a des négociations, il y a une déception. Et on repart au boulot et c'est toujours la même histoire.
Bah ça, c'est parce qu'il n'y a pas de maturité démocratique. Il n'y a pas de conception de ce qu'est la démocratie sociale dans ce pays. En tout cas, encore moins depuis le 2017, c'est vrai que ça avait été le cas précédemment. Il n'y a pas de co-construction. Et ce dont on a besoin, on le voit sur les histoires, y compris sanitaires, on a besoin de choix qui soient compris, qui soient partagés, qui soient portés pas simplement par ceux qui dirigent, mais aussi par des franges de la société. Et ça, on sent que ce n'est pas une volonté aujourd'hui. C'est vrai. Et donc, c'est vrai qu'il y a un petit côté rituel. Mais moi, j'ai horreur des rituels. J'ai horreur des trucs où il faut être là, où on espère que tout le monde espère que vous serez. Ben non. Ouais. Moi, je ne suis pas toujours là.
Et en tout cas, vous serez encore à la CFDT dans les années qui viennent, puisque vous êtes candidat à votre propre succession. Vous l'avez annoncé il y a quelques jours. Pourquoi repartir pour un tour? C'est par envie? C'est par sens des responsabilités? C'est par peur du vide?
Non, j'ai aucune peur du vide. Ça, pour le coup, non. J'ai envie, j'ai toujours envie. Je suis toujours un militant et je pense que je le serai jusqu'au bout.
On peut être un militant sans être un président ou un secrétaire général.
Tout à fait. Et du coup, je pense que très, très clairement, il y avait l'idée de finir en 2022. Au Congrès. Il y a 3 éléments qui ont fait que j'ai revu cette position. Le premier élément, c'est que on a traversé une période sanitaire très très dure qui nous a empêchés d'aller au bout d'un certain nombre de projets internes notamment sur l'évolution du fonctionnement de la Confédération, mais aussi la syndicalisation en direction des salariés. Enfin, on n'a pas été au bout de ce qu'on voulait faire et là je pense qu'on a pris un peu de retard, ce qui est logique comme beaucoup de gens pendant le Covid. Le deuxième, c'est que je préside la Confédération Européenne des Syndicats jusqu'en mai 2023, je devais arrêter plus tôt et on m'a demandé de continuer jusqu'au bout du mandat jusqu'en mai 2023, donc c'est difficile d'abandonner aussi les collègues européens. Le troisième élément, c'est qu'il aurait fallu dire que je partais en janvier ou février prochain, si je voulais partir en juin 2022. Le contexte est quand même très compliqué, très particulier.
En pleine campagne électorale.
On a besoin d'une CFDT qui tienne la route et donc et qui fasse ses propositions. Et du coup, c'était dur pour de faire la transition à ce moment-là.
Vous ne seriez pas comme tous les politiques. Est-ce que vous ne seriez pas en train de vous accrocher à votre fauteuil, Laurent Berger?
Non. Je peux vous assurer que non. Et d'ailleurs, j'ai plutôt laissé penser que je repartais en 2022, mais que ce ne sera pas forcément pour aller jusqu'au bout du mandat. Et
vous pourriez lâcher un cours de route, transmettre.
Oui, mais c'est l'habitude à la CFDT, ça se fait comme ça régulièrement et c'est pas un problème.
Vous évoquez la crise sanitaire. Quand on voit des ministres aujourd'hui qui sont mis en examen pour une mauvaise gestion supposée ou présumée de crise, vous trouvez que c'est un fonctionnement normal de la démocratie ou que vous dites, là encore, il y a un truc qui cloche, quoi?
Non, je me dis qu'il y a un truc qui cloche. Moi, c'est une situation qui me gêne beaucoup. Ça me gêne beaucoup, d'abord parce que c'est facile de refaire les matchs 20 mois après et de dire ce qu'il aurait fallu faire. C'était quand même une situation très inédite. Deuxièmement, parce que ça jette un peu à la vindicte populaire des responsables politiques qui ont sans doute fait leur travail comme ils ont pu, peut-être avec des erreurs, sûrement avec des erreurs, qui n'en fait pas. Et troisièmement, c'est un outil à déresponsabiliser. C'est-à-dire, qui va vouloir demain prendre des responsabilités? Vous savez, moi j'ai vu évoluer ça sur les 20 dernières années. C'est de plus en plus dur quand même d'assumer des positions et des responsabilités. Parce qu'on vous insulte, c'est plus facile qu'avant. Maintenant, les réseaux sociaux vous permettent de le faire avec des gens qui savent tout sur tout et qui vous jugent et dont vous découvrez des traits de personnalité qui, quand même, sont pas les vôtres. C'est dur parce que on vous ramène sans arrêt à plutôt aux erreurs que ce que vous faites de bien. Donc moi, je suis pas à l'aise avec tout ça. Je suis pas à l'aise avec ce qui est en train d'arriver à Madame Buzyn et je pense que c'est une dérive, ouais. C'est une dérive de la démocratie.
La colère, elle s'exprime aussi par l'abstention, qui est plus forte à chaque scrutin. On verra ce qu'elle sera à la prochaine présidentielle. Est-ce que vous pourriez vous abstenir, par exemple ?
Non. Enfin, je sais pas, je veux dire, si au deuxième tour de la présidentielle, il y a Le Pen-Zemmour, je m'abstiendrai. Mais enfin, excusez-moi, j'ai osé espérer qu'on ne sera pas dans cette délire-là. Donc non, je crois qu'il faut prendre des positions. Donc moi, je vote, je dis jamais pour qui je vote, évidemment.
Vous dites pour qui vous ne votez pas ?
Oui, je ne vote jamais pour l'extrême droite. Je ne voterai jamais pour l'extrême droite.
Et faire de la politique, alors ? Est-ce que ça pourrait être ça, l'étape d'après ?
Non. Non, non, c'est, clairement, c'est pas...
On ne pourra pas vous ressortir cet extrait dans quelques années, comme on l'a fait Éric Dupond-Moretti,
ouais, quand il disait « je ne serai jamais ministre ». Vous pouvez le faire à d'autres en ce moment, mais alors là, je peux vous dire non. Après, si vous me demandez si à 65 ans, 70 ans, si on va s'installer, je ne sais pas où, avec Mireille, je ne deviens pas un adjoint dans une mairie de 300 habitants ou 2000 habitants, j'espère que vous n'utiliserez pas cet extrait. Mais non, franchement, non. Pas d'engagement politique, pas d'engagement ministériel, tout ça. On m'en a prêté des volontés, vous le savez, là-dessus. Bah, c'est pour essayer de me nuire, je pense. Moi, je suis un syndicaliste.
C'est pas un encouragement ? C'était pas forcément des gens qui auraient pu avoir envie que vous y alliez ? Non, vous pensez que c'est...
Certains aussi. Certains, un encouragement qui était suivi assez vite d'un soulagement.
Vous pensez à qui ?
Non, mais parce qu'il y a eu un moment donné, ça a couru, vous savez, que tel courant de pensée pourrait se retrouver. Non, franchement, moi je suis, j'espère, un syndicaliste respectable qui fait son boulot. Je serais un très mauvais politique, c'est pas mon trip. Et puis, encore une fois, c'est pas d'envie. Moi, j'ai envie, après, de me rendre utile, on verra où, mais pour des causes, mais aussi d'avoir un boulot peut-être un peu moins prenant.
On va prendre un peu large dans quelques minutes pour que votre boulot vous prenne un peu moins, et on va même le prendre tout de suite, le temps d'écouter Désarmé de Laura Cahen.
Je suis la fille du temps.
désarmé de Laura Cahen.
Hors piste, Thomas Soto.
Avec ce soir Laurent Berger, j'ai tant marché que mes pieds sont lourds, chantait Laura Cahen à l'instant. Ça vous parle, Laurent Berger?
Ça m'est arrivé de marcher beaucoup et d'avoir mal aux pieds après, ouais.
Il paraît que pour vous vider la tête, vous marchez certes, mais vous jouez au ping-pong, que vous faites du baby-foot. Déjà à l'époque de votre scolarité, vous aviez la réputation d'être plus assidu au baby qu'en cours. C'est vrai ça ou pas?
Ouais, c'est vrai.
Ouais. Et aujourd'hui,
c'est baby-foot. Aujourd'hui, il y en a un au siège de la Confédération et c'est vrai que je joue assez régulièrement avec. Notamment Dominique, qui est le responsable des relations presse. Et je le plains parce que je le bats à chaque fois, en fait.
Ah, vous n'êtes pas dans la négociation au baby-foot?
Jamais.
Non?
Non.
Vous êtes
non.
Bon perdant ou pas?
Oui, mais au baby-foot, ça ne m'arrive pas souvent de perdre. Donc, je suis bon perdant, mais bon, quand vous jouez, vous espérez gagner, non? C'est normal.
Ce qui paraît que vous êtes autoritaire aussi.
Ah bon?
Ouais. C'est des choses qui sont revenues dans les témoignages qu'on est allé chercher. C'est vrai ou pas? Vous reconnaissez là-dedans ou pas?
Non, autoritaire, non, mais. Non, je crois pas que je suis autoritaire.
Laurent Berger, je vous ai demandé d'apporter un objet de votre choix.
Oui.
Est-ce que vous l'avez?
Oui, je l'ai, ouais.
Alors, qu'est-ce que c'est? Montrez-nous. Ah!
Ça fait du bruit.
Un masque et un tuba.
Voilà.
Ouais. Ça mérite quelques explications, parce que c'est pas immédiat comme sens.
Ben non, c'est pas immédiat, mais c'était n'importe quel objet. Donc,
ouais.
C'est parce que j'adore faire de l'observation sous-marine.
Ouais.
Alors évidemment, on peut en faire là où l'eau est assez chaude, mais on peut aussi en faire là où l'eau est assez froide. La dernière fois que j'en ai fait, par exemple, c'est sur la côte ouest, mais particulièrement à l'île de Sein,
ouais.
Qui est un des endroits que nous aimons beaucoup avec ma femme. Et voilà, et j'adore parce que c'est une forme de sérénité, vous n'entendez pas les bruits de la même manière. Vous êtes obligé de vous réguler, notamment quand l'eau est un peu fraîche, réguler votre respiration. Vous voyez de belles choses, même si c'est pas toujours des poissons multicolores dans l'ouest, mais de très belles algues. Le parc naturel de la mer d'Iroise a des variétés immenses d'algues. Et donc voilà, j'adore ça.
C'est une façon de couper, de penser complètement à autre chose. À quoi vous pensez quand vous marchez pendant des heures sur l'île de Sein ou sur la plage de Saint-Marc-sur-Mer, qui est celle de votre enfance du côté de Saint-Nazaire?
Bon, je pense à la beauté de la nature déjà. J'adore regarder la mer. On adore regarder la mer. Je pense quand je fais de l'observation sous-marine, je me laisse aller à ne pas penser à grand chose.
Vous arrivez à décrocher?
Ouais, je décroche assez facilement.
Ouais.
Ouais. Ouais, je suis toujours très connecté. Ça, la responsabilité impose un peu ça, mais par contre, je peux couper assez facilement.
Vous êtes sensible aux objets, aux...
Je suis sensible aux objets, pas forcément, non.
Et aux honneurs?
Pas forcément non plus.
Il n'y a pas de petite rosette sur votre veste ou
non,
sur votre
c'est
chemise.
Pas. On a à la CFDT une règle qu'on n'accepte pas les honneurs.
Mais après, peut-être?
Après, non, pas forcément.
Ouais.
Et je ne suis pas très sensible.
Et vous avez de temps en temps la tentation de Venise ou pas? Quand, comme ça, vous partez, vous allez explorer les fonds sous-marins.
Ouais, c'est vrai, ouais.
Ouais,
ouais, ouais, j'ai des fois. Des fois, on a envie de prolonger les moments de sérénité qu'on traverse. Et moi, je crois beaucoup, je cherche beaucoup la sérénité. C'est-à-dire ces moments un peu suspendus où vous faites quelque chose et vous vous dites, voilà, ça fait du bien, quoi. Et des fois, c'est vrai. Moi, quand on revient après des congés, on sait qu'on va replonger dans la lessiveuse, quoi. Et la lessiveuse, ça fait mal, ça bouscule, ça remue. Et du coup, faut se préserver des moments un peu à soi, personnels, où vous pouvez être avec ceux que vous aimez et faire quelque chose de complètement différent.
Et vous iriez où alors si vous cédiez à la tentation de Venise?
Moi, j'ai un rêve, c'est d'aller aux Marquises. Voilà.
Chez Jacques Brel, c'est lié à Jacques Brel ou pas du tout?
C'est pas forcément lié à Jacques Brel, même si c'est avec Jacques Brel que j'ai connu cette île. Je suis allé en Polynésie pour le travail, parce qu'on a une CFDT qui s'appelle Atiaimua là-bas, qui est très puissante. Mais je suis pas allé jusqu'aux Marquises, et c'est vrai que c'est l'endroit où j'ai envie d'aller, et j'ai envie qu'on aille ensemble avec Mireille.
Laurent Berger, vous parlez de Mireille, vous avez évoqué vos enfants, 6 en famille recomposée, 4 à vous. Il y a un petit dernier de 3 ans qui s'appelle Émile. Qu'est-ce que vous avez envie de lui laisser à Émile?
Des choses globales et puis des choses plus personnelles. La chose globale, c'est un monde quand même qui soit moins inquiétant, qui soit plus apaisé.
Vous y croyez ça?
Ouais, j'y crois, sinon je serais pas là. Vous savez, il y a une chanson de Yves Jamais qui dit « Ça dépend de ce que l'homme aura dit, ça dépend de ce que l'homme aura fait ». Et c'est bien ça, le problème, c'est que ça dépend de nous. Et moi, je dis, c'est bien... La seule différence que j'ai avec Yves Jamais sur ce truc-là, c'est dit, c'est bien ça, l'opportunité, c'est que ça dépend de nous. Donc j'espère, ouais, qu'Émile, il grandira, il vivra dans un monde plus juste, ou plus sobre écologiquement, plus apaisé, plus pacifié. Et j'ai envie de lui céder l'envie des autres, l'envie de découvrir la vie, d'être tolérant, d'être... et puis de choisir son chemin. Mais qui soit un chemin respectueux des autres, respectueux de lui-même. Voilà.
C'est... Quand vous le regardez, vous allez lui faire un bisou avant de le coucher le soir, vous lui dites pas « tu seras syndicaliste, mon fils ?»
Non, tous les soirs, quand je lui fais un bisou, je lui dis « je t'aime ».
Mais vous lui dites pas « tu seras syndicaliste ?»
Non, mais en plus, je sais pas s'il comprendrait.
Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes d'aujourd'hui et à ceux qui nous écoutent, tous ceux... pour qui la politique, la radio, l'actualité, le syndicalisme, c'est loin, ça ne reparle pas.
J'ai envie de leur dire que vous avez des aspirations, vous avez des volontés, vous vivez des solidarités, vous vivez des amitiés, vous vivez de la fraternité. Faites savoir ce que vous voulez, faites savoir dans quel monde vous voulez vivre. Et moi, je suis persuadé qu'on n'en sortira plus riche que si on ne les écoute pas. Et donc, peu importe quelle est la forme de l'engagement collectif, mais ne restez pas chacun dans votre couloir. Vivez du collectif, construisez du collectif pour faire valoir vos idées, mais aussi vivre des moments forts. Je ne l'ai pas suffisamment dit, mais le syndicalisme, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de convivialité et d'amitié aussi.
Merci beaucoup Laurent Berger d'avoir fait une heure de hors-piste avec nous. Merci également à Marie Merrier à la réalisation, Claire Tesser à la mémoire vive, Charlotte Leloup à la préparation et Philippe Duclos au manège. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 18h avec Rachida Dati. Vous avez une question pour Rachida Dati ?
Non, pas spécialement.
Pas spécialement, ça vous fait sourire. D'hors piste, vous le savez, le dernier mot revient toujours à l'invité. À vous donc, Laurent Berger.
Moi, mon dernier mot, c'est quand faut être heureux pour s'engager pour du collectif. J'ai cette chance-là aujourd'hui d'être très heureux dans ma vie et donc de pouvoir donner beaucoup à d'autres, à des causes. Et puis, encore une fois, ce style d'exercice que j'aime pas beaucoup, vous l'avez dit, vous pouvez le faire si vous vous sentez en confiance et je vous remercie de m'avoir mis en confiance.
Merci Laurent Berger.